Mais lorsque j'étais enfant, je me souviens d'une chose qui m'avait beaucoup choqué à l'époque. C'était le titre d'un livre de la bibliothèque de mes parents. Mes parents avaient une grande bibliothèque avec des portes en verre. Chaque fois qu'on ouvrait, ça faisait un bruit de grincement, et il y avait tous ces livres. Il y en avait un qui s'appelait « J'irai cracher sur vos tombes ». Il y en a peut-être qui s'en souviennent, je crois que c'était Boris Vian. Mais le titre me semblait être un summum dans la haine de quelqu'un. J'irai cracher sur vos tombes, le mépris, la façon de détester. C'est vraiment un titre très graphique. Quelques années plus tard, en découvrant la Bible, j'ai aussi découvert une expression très forte. Je vais te vomir de ma bouche. Ça aussi, c'est très graphique. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est de réaliser que ces propos viennent de la bouche même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'il s'adresse dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée, que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. J'aimerais qu'on se tourne ensemble à la fin de la Bible, au livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14. Je lis dans la version à la colombe, 14 à 22. Je rappelle donc que c'est une vision de l'apôtre Jean. Il voit le Seigneur dans toute sa puissance, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui dit « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, voici l'expression, je vais te vomir de ma bouche. D'autres versions utilisaient l'expression je vais te cracher de ma bouche. Non, c'est vomir de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici. Je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. L'ange de l'église de Laodicée, donc le responsable de l'église de Laodicée, reçoit donc ce message. On a vu que à chaque fois le nom du destinataire a une signification en rapport avec la nature du message de Christ. Là-haut, on avait vu ça quand on avait parlé des Nicolaïtes. On avait dit que Nico, c'est vaincre, c'est conquérir. Laos, c'est pas un royaume seulement un royaume de l'Asie. Le mot grec lao veut dire peuple. Et le mot dicée, c'est le même mot que dikaios. En grec, ça veut dire droit. Donc, laodicée, ça signifie droit du peuple ou gouverné par le peuple. Et en fait, c'est un reproche que Christ fait à cette église, c'est que l'église n'était pas gouvernée par Christ. Elle n'était pas gouvernée non plus par le pasteur ou les anciens. Elle était gouvernée par le peuple. Un peu comme une démocratie. Et ça, c'est pas du tout le schéma que le Seigneur a pour son Église. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des églises où c'est les gens qui se réunissent et qui votent pour choisir le pasteur. On fait même une liste des traits favorables. Et je l'ai vécu moi-même dans une église où j'avais commencé à être pasteur. À la fin, quand je suis parti, les gens n'avaient rien trouvé de mieux que d'établir une liste du pasteur type, celui qu'ils aimeraient. Alors il fallait bien sûr être très jeune pour être dynamique, mais aussi avoir 50 ans d'expérience. Il fallait que le pasteur passe tout son temps à étudier la parole pour donner des messages qui soient pleins de profondeur et de richesse, mais en même temps, il fallait qu'il soit disponible à tout moment et qu'il s'occupe des personnes dans les hôpitaux, des jeunes, etc. Encore une fois, il est plus facile de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Cette église, on pense qu'elle avait été établie par Épaphras, un compagnon de Paul. Si vous voulez vous tourner dans Colossiens, au chapitre 4, verset 12. Je vous rappelle qu'on apprend beaucoup de choses sur l'église du premier siècle, non seulement en lisant le récit du livre des Actes, que nous avons étudié l'an dernier, en détail, mais aussi en prenant un peu d'attention en regardant les salutations des lettres de Paul, des épîtres. Et là, on voit qu'on peut faire tout un petit un réseau d'amis, de voyages, de gens qu'il voit, qu'il aime. Et là, au chapitre 4, verset 12 de Colossiens, il dit « Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. » On pense justement que cet Archippe, c'était le premier pasteur de l'église de Laodicée. Et cet avertissement de Paul peut faire entendre que peut-être il y avait déjà quelques problèmes dans cette église. À l'époque de la lettre à l'église de Laodicée, on pense qu'il avait déjà été remplacé à cause de son âge. C'était 30 ans plus tard. Mais ce qui compte, c'est de voir que cette église de Laodicée, elle représentait aussi, elle était un peu en accord avec la ville elle-même. Et souvent, c'est vrai qu'une église est un peu le reflet de la ville où elle se trouve. C'était une cité en Asie mineure, donc en Turquie actuelle, toujours près de dans la région d'Éphèse, qui avait été bâtie au 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle était, on l'a vu, à côté de Colosse, la ville à laquelle Paul avait écrit la lettre aux Colossiens, et d'une autre cité qui s'appelait Hierapolis. Et de toutes les églises, de toutes les villes des sept églises, c'était la plus riche. C'était un centre commercial, il y avait une industrie textile prospère qui se basait sur le tissage d'une célèbre laine noire. Ça fait penser peut-être à l'astrakhan. Vous savez que l'astrakhan, c'est la laine de mouton noir. Je crois que c'était pas exactement la même laine, mais c'était réputé dans l'Empire romain. Et ça leur avait apporté une grande richesse, une grande prospérité. Il y avait aussi une grande université de médecine. Et là-bas, on soignait surtout les maladies des yeux. Ils avaient découvert ce qu'ils appelaient le baume de Phrygie, qui était une espèce de collyre, une onction pour une graisse qui mettait sur les yeux et qui était censée soigner les yeux. On pense, on a fait des recherches actuelles et on pense qu'en fait c'était seulement un effet de placebo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de cure, mais ils étaient célèbres pour cette raison. Et toutes ces activités avaient amené la prospérité de banques. C'était un grand centre financier et ils étaient connus pour leur richesse. En l'an 60 de notre ère, il y avait eu un grand tremblement de terre. Et l'empereur romain avait proposé de l'aide financière, mais eux, ils avaient dit non, on n'a besoin de personne. Ils avaient pu reconstruire la ville grâce à leurs propres ressources. On verra que ça aussi, ça s'adresse sur le plan spirituel à l'église de Laodicée. On a vu que dans toutes ces lettres, il y avait une description de Jésus lui-même, une espèce d'autoportrait par l'artiste. Et ici, au verset 14, la deuxième partie, il est dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » L'Amen, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, la façon dont on utilise le mot « Amen », on a l'impression que ça veut dire « Bon, ça y est, on a fini, on passe à autre chose. »« Hasta la vista, ciao, au revoir, à bientôt. » En fait, non, le mot « Amen », ça veut dire, c'est un mot d'origine hébraïque. Ésaïe 65, 16 nous parle du Dieu de vérité. Le mot « vérité », c'est le mot « Amen », « Amin ». Et vous vous souvenez que Jésus, souvent, lorsqu'il voulait insister sur un point, disait « en vérité, je vous le dis ». En araméen, en grec, il disait « Amin, Amin ». Donc c'était une façon d'exprimer quelque chose qui est absolument certain. On sait que il s'appelle l'Amen ici, on sait que Jésus-Christ lui-même est la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et le mot Amen, c'est vrai qu'on l'utilise des fois à la fin de quelque chose pour signifier que c'est le dernier mot. Et que quand Dieu a parlé, il n'y a plus de discussion. On dit, l'expression courante, dire Amen à tout ce qu'il dit. On le dit en parlant du patron ou d'un homme politique, mais là il est question de le dire, lorsque Dieu a parlé, on peut dire Amen. C'est plus la peine de tergiverser, de faire des débats, Dieu a parlé. Vous souvenez, Paul disait dans 2 Corinthiens 1:20, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disions à Dieu l'Amen pour sa gloire. Les promesses de Dieu en Christ sont assurées. Amen, c'est il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas à se dire oui, mais peut-être que c'était pour les gens qui disaient ça à l'époque. Bien sûr, il faut prendre le contexte et comprendre ce que dit le texte. Mais les promesses que Dieu nous laisse dans sa parole sont aussi sûres que leur réalisation. Et ça, c'est fondamental. Il faut connaître ces promesses pour pouvoir s'appuyer sur elles. D'où l'importance de lire la parole, de mémoriser les promesses. Nous avons, il y a une ressource très, très, très bonne, c'est un texte qui a été organisé par David Wilkerson, traduit en français par CVA, qui sont les promesses de Dieu, organisées par thème. Et ce petit livre, on n'en a pas là aujourd'hui, mais on s'assurera d'en avoir, c'est formidable. Je me souviens que c'est un livre qui a été instrumental dans ma conversion. Je prenais ce petit livre, quand j'avais des problèmes dans mon cœur, je voyais ces promesses, et quelque part, je sentais qu'elles étaient vraies. Et ces promesses, elles sont certaines. Mémorisons-les. Je vous ai déjà parlé de ce missionnaire qui rappelait au Seigneur les promesses. Il avait des problèmes de ressources financières. Et il prenait le verset qui dit que je n'ai jamais vu les enfants du juste mendier leur pain. Alors il ouvrait sa Bible au passage en question dans le psaume. Je sais plus le numéro, 120 et quelques. Il le mettait sur sa tête. Et dans le recueillement, il marchait et rappelait au Seigneur la promesse. Donc ça peut paraître un peu manquer de respect pour le Seigneur, mais je crois que son cœur était juste. C'était pour dire que sa foi dans la promesse. La promesse était là et il en faisait une réalité sur laquelle il appuyait sa vie. Jésus est l'Amen aussi dans le sens que il est le dernier mot de Christ, de Dieu. Vous vous souvenez dans Hébreux 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il n'y a pas de révélation ultérieure. On ne va pas attendre encore 50 ans pour que quelqu'un ait une nouvelle révélation. Non, tout a été dit. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre la vie que Dieu veut que nous menions. L'Amen, il est aussi le témoin fidèle et véritable. Témoin de qui ? Témoin de Dieu, bien sûr. Vous vous souvenez, l'apôtre Jean, le même qui a écrit l'Apocalypse, disait que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître, c'est-à-dire il l'a révélé, il l'a expliqué, il l'a expliqué en détail. Le concept que les hommes avaient de Dieu était devenu tellement erroné et tellement flou, tellement faux, que Dieu avait envoyé son Fils pour montrer vraiment qui il était, et bien sûr pour nous sauver de nos péchés. Aujourd'hui encore, la conception que les gens ont de Dieu est une conception complètement erronée. S'ils ont une conception, c'est que peut-être il y a un Dieu. De toute façon, il doit être lointain. Avoir les problèmes dans le monde, ce n'est pas un Dieu d'amour. Ça doit être un Dieu qui cherche à nous sauter dessus. Tout à l'heure, on chantait ce chant, la grâce de Dieu, cet amour non mérité. Sans lui, où serions-nous ? Voir Jésus-Christ, c'est voir le Père. Si vous voulez connaître Dieu, à quoi il ressemble, quel est son caractère, il vous suffit de regarder Jésus-Christ, sa vie. Et souvent, lorsqu'on essaye de parler de notre foi, les gens nous disent « Oh, vous, l'Église, les chrétiens, cette bande d'hypocrites, etc. » Mais vous remarquerez que si vous abordez le sujet de Jésus-Christ, lui-même, sa vie, les gens ont du mal à critiquer la vie de Christ. On cherche un révolutionnaire, il était révolutionnaire. On cherche quelqu'un qui ne regardait pas ses intérêts, il ne cherchait pas ses intérêts. On cherche quelqu'un qui faisait de l'humanitaire. Médecin sans frontières, il était un médecin sans frontières. Il était celui qui multipliait le pain pour prendre soin des gens. Et quand on le voyait, en fait, on voyait l'amour du Père. Vous vous souvenez, Jésus s'était même un peu emporté après Philippe, son disciple, qui lui disait « Seigneur, tu montre-nous le Père et ça nous suffit. » Et Jésus lui dit « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as encore rien compris ? Tu ne m'as pas connu ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ?» C'est formidable de réaliser qu'en Jésus-Christ, nous avons la divinité complète, nous avons l'image même de Dieu le Père. Mais ce qui est encore plus fameux, plus intéressant, c'est que nous-mêmes, nous sommes appelés à être les témoins de Jésus. Nous sommes appelés à être ses disciples, en nous aimant les uns les autres. À ceux-ci, les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Mais vous vous souvenez, après sa résurrection, avant de remonter vers son Père, acte 1-8, il disait « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à être les témoins de Christ. Chacun de vous, vous touchez des personnes que je ne connais pas, que d'autres personnes ne connaissent pas, vous avez votre propre sphère d'influence. Et dans cette sphère d'influence, vous êtes un représentant de Christ, qui est lui-même un représentant de Dieu. C'est pas facile, on se dit, représentant de Christ. Des fois, mais pas souvent. Pourtant, au début, on sait que les premiers disciples avaient réussi à être des témoins. Pourquoi ? Parce que à Antioche, on les appelait des chrétiens. Et des chrétiens, ça voulait dire des petits Christ. Est-ce que nous sommes des petits Christ pour les gens qui nous entourent ? C'est la question. Il se définit aussi comme l'auteur de la création de Dieu. L'auteur de la création de Dieu, le mot qui est traduit ici par auteur, c'est le mot arché en grec qui peut vouloir dire le commencement, le chef de file, le principe, l'auteur. Alors les témoins de Jéhovah, eux, traduisent ça par le commencement de la création de Dieu pour dire que Jésus a été créé par le Père, sous-entendu qu'il n'est pas éternel et qu'il n'est pas Dieu lui-même. Mais nous avons plein de passages qui nous montrent que Jésus est éternel, que Jésus a tout créé. Colossiens 1, 15, par exemple. Qui nous rappelle qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est le principe, l'auteur de la création physique, mais nous savons aussi qu'il est l'auteur de la création spirituelle dont Paul nous parle dans 2 Corinthiens 5, 17 en nous disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Et ça, c'est bon aussi à s'en souvenir parce que la psychologie moderne nous dit qu'en fait, nous dépendons de notre passé. Il y a même des techniques où on va chercher ce qui s'est passé à notre naissance. Technique en Californie, aux États-Unis, où on essaye de retrouver le cri qu'on a dû pousser à la naissance pour savoir retrouver ses émotions, pour comprendre comment on a pu en arriver là. Non. Christ nous dit, quand vous venez à moi, vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est tellement libérateur de savoir qu'on n'a plus à porter le poids du passé. Vous vous souvenez que dans chaque lettre, il y avait une présentation du destinataire, une description de Jésus et puis des compliments. Et ici, en fait, si on regarde bien, on voit aucun compliment. Par contre, eux s'en faisaient beaucoup. Ils se trouvaient pas mal. Ils se croyaient riches. Ils croyaient n'avoir besoin de rien. Ils se trompaient beaucoup sur eux-mêmes. Ils se trompaient complètement sur eux-mêmes. Il y a un passage de la Bible aussi qui dit que on ne doit pas chercher à se glorifier. Laissons Dieu le faire si c'est sa volonté. Eux se glorifiaient, en réponse, le Seigneur ne leur trouve aucun compliment, aucune qualité. Par contre, des reproches, il en fait. Verset 15, « Je connais tes œuvres, sous-entendu, elles sont pas belles. Tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Aussi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais, cette fameuse phrase, si graphique, je vais te vomir de ma bouche. » C'est drôle parce que à chaque fois aussi, le Seigneur utilisait l'histoire du pays. On raconte, les historiens disent qu'à Laodicée, il y avait des problèmes, il n'y avait pas de source d'eau sur place. Et pour amener de l'eau, il y avait deux possibilités. Il y avait des montagnes à proximité, donc il faisait venir l'eau par des aqueducs. Ou alors, il y avait à Hiéropolis, il y avait une source thermale chaude. Et il faisait transporter l'eau à Laodicée. Mais dans les deux cas, que ce soit l'eau fraîche, l'eau froide, glacée, qui venait du torrent et qui arrivait, le temps qu'elle arrive à Laodicée, elle s'était attiédie, elle était tiède. De la même façon, l'eau qui était bouillante dans les sources de Hiéropolis, quand on l'amenait à Dodane ou en carriole, là aussi, elle s'était refroidie, elle était tiède. Donc, il savait ce que c'était que de l'eau tiède. Et cette phrase m'a toujours intrigué, du moment ce passage m'a intrigué. D'abord, il y avait cette expression de Jésus qui voulait vomir. Hein. Et puis cette idée d'être... il leur dit, je préfère que tu sois froid ou bouillant. Alors, bon, moi je me disais, bouillant, froid, bon d'accord, c'est une personne, ou une église, ou morte, ou froid, c'est une personne probablement qui n'a jamais été convertie, qui est totalement ignorante des choses de la foi, ou qui est même hostile à la foi, par préjugé. Et on pense bien sûr à l'apôtre Paul lui-même, qui avant d'être saisi par Christ sur le chemin de Damas, faisait tout son possible, avec toute son énergie, tous ses talents naturels, pour détruire la foi chrétienne. Il était froid, mais le Seigneur l'a transformé. Par contre, la personne bouillante, à mon avis, c'est la personne pleine de zèle, d'ardeur pour le Seigneur, c'est la personne sincère, passionnée, qui refuse le compromis, qui met ses yeux sur, qui fixe ses regards, ses yeux sur Jésus, qui est enthousiaste, qui est engagé, qui veut vivre à fond pour le Seigneur, qui peut dire avec Paul, pour moi, la vie, c'est Christ, et la mort m'est un gain. Alors, bien sûr, je comprends que Jésus souhaite qu'on soit bouillant pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il préférait froid à tiède? Parce que lorsque quelque chose est tiède, il suffit des fois de donner un petit coup de micro-ondes, hein, on zappe au micro-ondes, puis ça revient. Quand c'est froid, il faut plus de temps. Froid, ça a l'air plus éloigné de bouillant que tiède est éloigné de bouillant. Alors c'est vrai en thermodynamique, mais c'est faux spirituellement. Pourquoi ? Tiède, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que le meilleur mot pour expliquer tiède dans ce sens, c'est le mot qu'on utiliserait en français, on dirait tiédasse. Tiède, à la limite, ça peut être un réglage sur un appareil ménager, mais tiédasse, ça représente, c'est quelqu'un qui est léthargique, c'est quelqu'un qui est endormi, qui est apathique, qui est indifférent, qui est nonchalant, qui fait les choses sans conviction, qui les fait presque à contre-cœur, mais qui les fait quand même. Et on peut regarder la situation de trois points de vue, sans doute plus, mais je me disais du point de vue de Jésus qui veut toucher le cœur d'une personne. Eh bien, je crois que Jésus peut agir dans le cœur d'une personne qui est froide, par l'Évangile, par la bonne nouvelle, par l'action du Saint-Esprit, par le témoignage des autres. La personne peut être touchée comme Paul, et dire, mais j'avais rien compris, j'étais aveugle, et maintenant je comprends, mes yeux sont ouverts. Et puis froid, c'est net, tiède, c'est moins franc. On ne sait pas sur quel pied danser, on pense que la personne est peut-être une personne chrétienne engagée, puis en discutant avec elle, on s'aperçoit qu'en fait, elle a peu d'intérêt pour les choses du Seigneur. Froid, au moins, c'est négatif, mais on sait où s'en tenir. Par contre, les gens tièdes, ils pensent avoir déjà tout entendu et tout compris. Ils ont, le plus dangereux, c'est une fausse sécurité. Peut-être qu'ils ont été baptisés comme nourrissons, on leur parle de Dieu, ils disent « Ah oui, j'ai l'assurance vie ». Ils ont cette fausse sécurité, alors qu'en fait, ils sont en position d'être damnés pour l'éternité. Un autre point de vue qui explique peut-être pourquoi Christ préférait qu'on soit froid plutôt que tiède, c'est que, au sens de la propagation de l'Évangile, une personne froide, transformée par la puissance de l'Évangile, c'est une merveilleuse démonstration de la puissance de Dieu, de la puissance de sa parole, de son esprit. Encore une fois, on revient à l'exemple de l'apôtre Paul. Je crois que Dieu a choisi de toucher le cœur de cet homme pour que c'est comme un trophée de tête de d'élan dans le hall d'un grand hôtel à la montagne. La tête de Paul, c'est le plus beau trophée, peut-être, dans la galerie de chasse du Seigneur. S'il peut toucher cet homme, alors il peut toucher chacun de nous. Il n'y a pas d'homme qui soit... Parce qu'il y avait personne qui était plus hostile à la foi chrétienne que lui. Dans ma vie, j'ai l'exemple de mon beau-frère, Mike Sloan. Un ancien bûcheron alcoolique, grossier, qui est devenu poète, évangéliste, missionnaire et pasteur. Et c'est lui qui a été à la source d'un réveil dans la famille de Nancy, ma femme. Et c'est par lui que le Seigneur m'a touché. C'est grâce à lui que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Encore un trophée d'une personne froide que le Seigneur a pu attraper et dire « Je l'ai eu. Amen. » Par contre, une personne tiède, alors là, c'est un piètre témoignage. Pas la gloire de Dieu. Je vous disais que chacun dans vos sphères de relations, d'influence, vous êtes un témoignage de Jésus, que vous le vouliez ou non. Si les gens sachent que vous êtes chrétien, si les gens sachent que dimanche matin, ben, vous étiez au culte, alors pour les incroyants, nous sommes tous une petite copie de l'Évangile. Paul disait la même chose, vous êtes une lettre écrite parmi les incroyants. Quelqu'un a dit, l'Évangile est écrit un chapitre chaque jour par les actions que nous faisons et par les paroles que nous prononçons. Les hommes lisent ce que nous écrivons, que ce soit fidèle ou pas. Dites, quel est l'Évangile écrit par toi ? Est-ce que nous montrons de la grâce ? Est-ce que nous montrons... Et on pourrait dire que les chrétiens tièdes sont un peu comme un vaccin contre le christianisme dans notre société. On va se placer peut-être du point de vue de Satan et dire que le christianisme, c'est une maladie redoutable. Il veut l'éviter à tout prix. Alors il peut utiliser le vaccin des chrétiens tièdes. J'ai regardé la définition du mot vaccin dans le dictionnaire. Et un vaccin, il est dit que c'est une suspension de micro-organismes tués ou affaiblis, comme des virus ou des bactéries, qui est incapable de produire une infection sévère, mais qui, lorsqu'elle est inoculée au patient, le rend capable de combattre les micro-organismes actifs. C'est la définition médicale. Maintenant, si on applique la suspension, c'est des micro-organismes tués ou affaiblis, ce sont les chrétiens tièdes. Ils sont incapables de produire une infection sévère. Ce n'est pas par eux qu'il va y avoir le réveil. Ce n'est pas par eux que la vie sociale à Nice va être transformée, que les choses vont bouger. Et de plus, lorsque cette suspension se mélange de quelques chrétiens tièdes ou de beaucoup de chrétiens tièdes est inoculée à la société, aux non-croyants, alors ça permet à la société de rejeter les micro-organismes actifs. J'aime bien l'idée qu'on n'est que des micro-organismes et qu'on est actif par la puissance du Seigneur. Les chrétiens bouillants, zélés, actifs, engagés, ils ne vont plus avoir d'effet parce que les chrétiens tièdes seront passés par là. Ils auront été vaccinés contre l'Évangile, la foi en Christ. Et c'est ce que nous voyons dans notre Europe, dans notre continent européen. La foi chrétienne qui était... À une époque, une foi vibrante et morte, on nous dit qu'on est dans une société post-chrétienne. Et lorsqu'on vient en disant « Oh, j'ai rencontré le Seigneur, il est merveilleux, je veux t'en parler », les gens nous disent « Mais moi, j'étais vacciné contre ça, j'ai fait du catéchisme, je sais bien que c'est toutes des histoires de grenouilles de bénitier, si ça marchait, on le saurait depuis le temps ». Les cathédrales, d'accord, c'est des beaux monuments, Christ, je t'en prie, parle-moi d'autre chose. » par exemple, du bouddhisme. Le Dalai Lama, tu l'as vu, là? Oh, il a l'air tellement sympathique dans sa grande robe rouge et jaune, là. Et puis tu vois, tous ces musulmans sincères, quand même, les croisades, quelle honte. Et donc, on ne peut même pas parler de Christ. Les gens ont été vaccinés. Un écrivain a annoncé qu'en fait, la même idée sous une autre expression, il a dit que le christianisme a été dilué à un tel point que si c'était un poison, il ne ferait plus de mal à personne. Et que si c'était un remède, il ne guérirait plus personne. D'où la réaction de dégoût du Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas des chrétiens tièdes. Un troisième point de vue, c'est le point de vue du chrétien lui-même. Une personne qui est froide, ben au moins elle va profiter des plaisirs du monde, du péché, sans arrière-pensée. Elle va peut-être se tuer en voiture saoulée à grande vitesse, mais au moins quand elle s'adonne au péché, elle y va de bon cœur, sans arrière-pensée. Pas que ce soit la chose la plus souhaitable, bien entendu, mais par opposition, la personne tiède, on dit qu'elle a trop de religion pour apprécier le monde et trop de monde pour apprécier la religion. Elle est toujours, comme on dit, le cul entre deux chaises. C'est pas une position confortable. C'est l'image même du compromis. Ni froid, ni bouillant, mais tiède. Et le Seigneur dit, ça me rend malade de l'estomac. Et encore une fois, on voit verset 17, parce qu'ils sont totalement, ils se font des illusions complètes sur leur sort particulier. Ils disent, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur leur dit, parce qu'en fait, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous vous souvenez à Smyrne, l'église qui était pauvre, le Seigneur l'appelait riche. Parce qu'elle est dans sa pauvreté, elle était proche du Seigneur. L'Église qui est riche, qui a des moyens, commence à compter sur ses moyens, sur ses programmes, sur ses médias, sur ses cassettes, audio, vidéo, sur les centres de vacances, et non plus seulement sur le Seigneur et sa direction. Alors le Seigneur est un haut le cœur devant ces chrétiens tièdes, mais le Seigneur, encore une fois, on ne mérite pas son amour, et ces chrétiens, ils les aiment quand même. La preuve en est qu'il leur donne des mesures correctives au verset 18. Ils leur disent, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. On peut dire que le Seigneur se moque un peu d'eux, là, parce qu'il leur dit, il vient de leur dire qu'ils sont totalement pauvres, ils sont totalement dénués de tout. Il leur conseille d'acheter chez lui de l'or éprouvé par le feu. Ça nous renvoie au fameux passage d'Ésaïe 55. L'appel missionnaire, l'appel évangélistique du Père lui-même. Ésaïe 55, 1, je lis, vous pouvez écouter. « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Venez acheter et manger. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a déjà payé le prix. Le fait que le salut soit gratuit ne veut pas dire qu'il est bon marché ou qu'il n'ait rien coûté. Il est gratuit parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Jésus est mort pour nos péchés. Et de la même façon, Jésus leur dit, venez chez moi. C'est lui notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui est la source de toutes nos ressources. Achetez chez moi de l'or éprouvé par le feu. Ça nous renvoie à 1 Pierre 1:7 qui dit que votre foi éprouvée est bien plus précieuse que l'or périssable. Cependant, éprouvée par le feu. Il nous dit, venez trouver la foi en moi. Venez, tournez-vous vers moi. Vous vous souvenez, c'est 2 Corinthiens 3:16. Lorsque l'on se tourne vers le Seigneur, le voile est déchiré. Il dit, si vous vous tournez vers moi, la foi va venir. La foi, c'est pas une chose qu'on essaye de produire, de secréter magiquement. La foi, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est en écoutant la parole de Christ que votre foi va grandir. C'est en vivant votre vie chrétienne que votre foi va grandir. Il leur propose aussi des vêtements blancs. On a dit que là-bas, ils étaient connus pour leur laine noire. Et à chaque fois, il y a un peu d'ironie. Il leur disait, vous êtes pauvres alors qu'ils avaient les plus grandes banques. C'était plus grand que la BNP, la Société Générale et Paribas réunis. Ils avaient les plus grandes banques de l'époque. Il leur disait, vous n'avez rien. Mais venez, achetez de l'or éprouvé chez moi. Il leur propose des vêtements blancs. Les vêtements blancs, dans la Bible, ça représente toujours les vêtements de justice. Vous vous souvenez, c'est encore le prophète Ésaïe. C'est intéressant de voir comment toute la Bible donne le même message. On revient, quand on étudie la Bible, on va chercher dans le prophète Ésaïe, dans le Deutéronome, comme Jésus le faisait dans les évangiles. Tout se tient. Et Ésaïe disait, nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice, les choses qui, à nos yeux, sont des bonnes actions qui devraient nous faire mériter l'acquiescement de Dieu en disant, ah mais c'est bien ce que tu viens de faire Pierre, là tu viens de donner la pièce à ce mendiant. Il dit non, tous nos actes de justice sont comme des vêtements, comme un vêtement pollué, un torchon sale, des sous-vêtements salis. Tout ça c'est, aux yeux de Dieu, toutes nos bonnes actions ne peuvent pas nous amener cette justice. La justice, elle vient du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Lorsque nous le recevons, alors cette justice, c'est comme si nous nous revêtions de sa relation pure avec le Seigneur. Et le Seigneur, il ne voit plus Pierre, Michael ou Rein, il voit Jésus, parce que nous sommes revêtus de Jésus-Christ. On voit que, à l'époque, la nudité faisait honte encore, les temps ont bien changé. Il leur propose aussi du collyr pour oindre leurs yeux. Le collyr, je crois que là, c'est l'Esprit Saint qui ouvre nos yeux. Quelqu'un a illustré cette idée en utilisant aussi des termes d'ophtalmologie. Il y a plusieurs types de maladies des yeux. Il y a la presbytie, ça veut dire qu'on ne voit bien que ce qui est éloigné. En général, c'est quand on prend de l'âge, donc presbyte, c'est la maladie des anciens. Et au sens spirituel, on peut se dire qu'on attend le retour du Seigneur, on peut voir les choses du futur, la gloire future du Seigneur, mais on néglige les impératifs de la vie chrétienne quotidienne, aujourd'hui. À l'inverse, la myopie, on ne voit bien que ce qui est proche. Alors on voit tout ce qui se touche dans l'immédiat, on est sensible aux besoins du moment, mais on ne parle pas de l'espérance du retour de notre Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Ces choses-là, on les ignore. Il y a aussi un autre défaut de l'œil, c'est l'astigmatisme. Ça veut dire qu'on a une vision irrégulière suivant les angles où l'on regarde, et on a une connaissance floue et déformée de la réalité. Et puis, il y a aussi la maladie la plus notable, c'est le strabisme, loucher. Et au sens spirituel, on peut dire qu'il y a un œil qui essaye de se fixer sur Jésus, comme on chantait, tourner un œil vers le Seigneur Jésus. Par contre, l'autre, il est toujours fasciné par le monde. Il louche, comme on dit, vers ce que le monde a à offrir. Et Jésus dit, demandez-moi mon collyre, il vous guérira de ça. Si nous avons l'Esprit Saint en nous, alors nous aurons l'équilibre entre le moment présent, le retour de Christ. Nous verrons les choses comme elles sont réellement. Nous ne serons pas déçus ou démoralisés si nous disons, mais nous sommes qu'une petite église, nous n'avons pas de puissance. Nous ne serons pas tentés de loucher, de dire, ah, je veux suivre le Seigneur, mais c'est pas mal ça non plus. La grâce de Dieu, c'est ça, c'est que malgré le haut le cœur qu'il avait, il leur dit haut les cœurs. Il leur dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Le remède à la tiédeur, c'est le micro-ondes. C'est le zèle. Le zèle, être zélé, ça veut dire être rouge, vif, comme un bout de métal qu'on met à la forge. Ça brûle les impuretés quand on est rouge vif. Toujours par la repentance. Encore une fois, la repentance, c'est pas un mot compliqué. Se repentir, ça veut dire se détourner du mauvais chemin pour retourner vers le bon chemin. Réaliser qu'on fait mauvaise voie et se détourner pour aller vers le Seigneur. Et le zèle, c'est pas quelque chose, on a dit que la foi, c'est pas quelque chose qu'on manufacture en essayant de se dire, oh, je vais croire aujourd'hui, je vais croire. Non, la foi, ça vient de ce qu'on entend la parole de Christ. C'est quelque chose que l'on reçoit. Le zèle, c'est pas non plus les efforts de la chair. C'est pas en disant, oh, je vais te zéler maintenant. Non, le zèle, il vient un peu comme les briquettes. La briquette se dit pas, je vais devenir toute rouge maintenant. Non, la briquette, elle est placée sur les autres briquettes qui sont rougeoient et elle prend elle aussi cette couleur, elle se met aussi à la température. Et nous aussi, il faut que nous soyons à la température avec Christ, que nous passions du temps avec lui, dans l'intimité, dans sa parole. Il faut que nous soyons aussi dans la communion fraternelle avec d'autres briquettes qui essayent de rougeoyer. Et à ce moment-là, les flammes du réveil peuvent remonter. Verset 20, peut-être un de mes versets favoris dans la Bible. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Encore une fois, la différence du christianisme avec toutes les autres religions, c'est que c'est Dieu qui vient frapper à la porte. Si vous y pensez bien, les autres religions, c'est l'homme qui monte sur son échelle, sur ses bonnes actions, sur ses rites, et qui essaye de frapper à la porte de Dieu. Là, c'est le Seigneur qui se tient à la porte et qui frappe. Alors, ce verset s'adresse dans le contexte à l'Église, bien entendu. Et en fait, quelque part, le Seigneur avait quitté cette Église. Il était en dehors de l'Église. Quelle triste ironie de penser que les gens se réunissent pensant que le Seigneur est au milieu d'eux, alors qu'en fait, il est à la porte et il frappe. Laisse à Dieu que ça ne nous arrive pas. Et l'ironie, c'est aussi, dans l'autre sens, c'est qu'en fait, dans chaque homme, Dieu nous aime tous, Dieu a tant aimé le monde, et il vient frapper à un moment donné ou un autre, il vient frapper pour nous dire, est-ce que tu vas ouvrir la porte? Il y avait un célèbre tableau de cette scène, de ce verset 3:20, qui avait été fait, et on voyait qu'en fait, il y avait... Sur la porte, il n'y avait pas de poignée à l'extérieur. Et quelqu'un faisait remarquer au peintre qu'il avait oublié de peindre une poignée. Il avait dit non, c'est fait exprès parce qu'en fait, il n'y a pas de poignée à l'extérieur de la porte de notre cœur. La porte, la poignée, elle est à l'intérieur et c'est à moi de l'ouvrir. La porte doit être ouverte de l'intérieur. Le Seigneur ne forge jamais la porte. Prends son élan. Des fois, on se dit que ça serait plus facile, mais non, parce que il veut qu'il y ait un réel amour, il veut qu'il y ait ce libre choix. S'il enfonçait la porte, pour lui dire oui, je t'aime, après ce que t'as. Mais pour qu'il y ait amour véritable, il faut qu'il y ait liberté de rejet, liberté de choix. Toujours toujours une promesse au vainqueur. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. À l'époque, les trônes, c'était pas seulement un siège droit, une espèce de grosse chaise glorifiée, c'était souvent une banquette. Donc l'idée qu'il y avait plusieurs personnes sur le trône est tout à fait possible. Mais ce qui est proposé ici, c'est rien de moins que le règne des tièdes repentis. Va venir un temps où nous allons régner avec le Seigneur, et même si nous avons été tièdes du moment que nous avons appliqué la correction, que nous avons acheté de l'or, de notre foi éprouvée, du collyre pour nos yeux, que nous avons reçu du zèle en étant avec le Seigneur, avec les frères, que nous sommes repentis en disant oui, vraiment j'étais tiède, je vais changer la température, alors à ce moment-là, nous allons régner avec lui. Et l'avertissement, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le message ne s'adresse pas seulement aux églises du premier siècle, il s'adresse à toutes les églises à tous les moments, il s'adresse aussi à nous à la fin du XXe siècle, et il s'adresse à chacun de nous ici présents et tous ceux qui lisent cette prophétie. Une promesse, on a vu que Jésus était l'Amen, une promesse qui se trouve au début de ce livre, c'est que heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Nous avons, avec cette église, terminé les sept églises. On a vu aussi qu'il y avait, à chaque fois, on pouvait voir ces églises du premier siècle pouvaient représenter une période de l'histoire de l'Église universelle depuis la Pentecôte jusqu'à la fin des temps. Et historiquement, prophétiquement, qu'est-ce que c'est que cette église de Laodicée? On pourrait dire que c'est une église, c'est l'église libérale moderne, celle qui rejette l'inspiration plénière de la Bible, qui commence à décider qu'est-ce que le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. C'est celle qui est malheureusement célèbre pour ses richesses, c'est les télévangélistes qui font des fortunes sur le dos de personnes sincères. Ce sont ces églises du Texas que j'ai vues en passant sur les autoroutes, qui affichent en lettres lumineuses le nombre de personnes qui ont assisté au culte du matin. Toutes ces églises qui ne font pas honneur, qui sont tellement influencées par le matérialisme ambiant, qui comptent sur leurs ressources et non pas sur le Seigneur et son Esprit Saint. C'est aussi, je crois, la chrétienté des derniers temps dont parle Timothée, plutôt Paul à Timothée, lorsqu'il dit « Viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils voteront. Ce pasteur nous embête, il nous parle du péché, alors qu'on veut bien, à la limite, parler de manquement ou de faute, de tendance, mais pas de péché. Ces gens qui ne veulent écouter que ce qu'ils veulent. Il est dit, le même Paul nous dit, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui croient à des fables. Paul exhorte Timothée, et à travers lui, il nous exhorte, « Toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » Rapidement, pour résumer, les sept églises, l'église d'Éphèse, le danger, c'était de perdre son premier amour. Vous vous souvenez, nous étions levés, pour ceux d'entre nous qui pensaient que peut-être on laissait les choses un peu aller à la dérive. On avait ce désir de revenir à notre premier amour, d'être excité par les choses du Seigneur. L'église de Smyrne, on avait vu là la peur des souffrances. C'était une église qui était persécutée. Le Seigneur lui disait, n'aie pas peur de ces persécutions. Pergame, c'était le danger du compromis de doctrine. On commence à dire, oh ça c'est bon, on va pas faire toute une histoire là-dessus, allez, c'est bon. Thyatire, c'était le compromis moral, l'immoralité sexuelle commençait à venir dans l'Église. Sardes, c'était la mort spirituelle. Philadelphie, c'était le danger de ne pas tenir ferme. C'est pas facile, on est secoué par le monde, mais le Seigneur nous dit de tenir ferme. Laodicée, le danger, c'est la tiédeur spirituelle. Encore une fois, toutes ces églises représentent l'histoire de l'Église universelle. Éphèse, on a vu que c'était l'Église juste après la période apostolique, l'Église des premiers temps qui commençait à se refroidir. Smyrne, c'était l'Église persécutée des siècles suivants. Pergame, c'était l'Église qui commençait à prendre des influences non chrétiennes dans sa doctrine. Thyatire, c'était l'Église du sacrifice perpétuel, l'Église catholique qui, là aussi, avait des doctrines mauvaise. Sardes, c'était l'église du réveil, de la réforme plus exactement. Il y avait un petit reste qui s'était réveillé, mais ça n'avait pas duré. Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel. On a vu que c'était l'église évangélique du 18, 19e, 20e siècle qui est à la source d'un renouveau, d'un réveil, plutôt qui a bénéficié d'un réveil et d'un grand mouvement missionnaire qui continue aujourd'hui. Et Laodicée, c'est peut-être l'église moderne, les télévangélistes, qui repose sur son argent. Prions que notre problème, ce soit de tenir ferme, comme l'église de Philadelphie. Prions. Seigneur, ouvre nos oreilles et montre-nous à chacun les endroits où nous faisons preuve de tiédeur, Seigneur, dans notre témoignage, dans notre discipline de vie, dans la lecture de ta parole, dans le temps que nous passons avec toi, Seigneur, peut-être que si nous faisions les comptes, nous passons plus de temps devant la télé que devant ta parole ou en prière. Nos conversations sont peut-être futiles et n'amènent à rien. Seigneur, nous voulons nous repentir de ces choses-là, Seigneur. Nous voulons que tu nous remplisses de ton zèle, Seigneur. Et peut-être pour certains, aujourd'hui vous avez entendu le Seigneur frapper à la porte de votre cœur. Alors je voudrais vous donner l'occasion d'ouvrir la porte. Vous pouvez le faire dans le silence de vos cœurs à un autre moment, mais le Seigneur nous a dit que si nous le confessons devant les hommes, alors il nous confessera devant son Père. Et si vous avez été touché, si vous voulez ouvrir la porte de votre cœur, alors je vais vous demander dans le silence d'abord de répéter cette prière après moi. Seigneur, merci parce que tu m'as montré ce matin que je n'ai rien pour mériter ton amour. Mais tu as décidé de m'aimer, Seigneur, et tu frappes à la porte de mon cœur. Alors Seigneur, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je te demande de venir dans ma vie, Seigneur. Deviens mon Seigneur, sois celui qui dirige mes décisions, mes pensées. Et sois aussi mon Sauveur, Seigneur. Je te fais confiance par le sacrifice que tu as fait à la croix, d'avoir payé pour mes péchés, Seigneur. Seigneur, je veux me repentir, je veux me détourner de mon péché, de mes péchés, et me tourner vers toi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je te demande de me l'accorder par toi, par ton Esprit Saint, par ta parole, par les frères, Seigneur, pour m'aider à vivre la vie que tu as pour moi, cette vie abondante que tu nous promets, Seigneur. Merci Seigneur d'être venu dans mon cœur. Et vous pouvez avoir l'assurance parce que la promesse du Seigneur est véritable, est indéniable, que si vous faites cette prière, alors vous êtes devenus des enfants de Dieu et le Seigneur commence en vous une nouvelle création. Si vous avez priez cette prière, je vous demanderai de lever le doigt pendant que nous avons les têtes baissées. Seigneur, je te remercie pour ce qui ont vraiment ouvert leur cœur ce matin. Bénis-les par ta présence, Seigneur. Bénis-les par l'assurance profonde que tu les as entendus. Et qu'avec toi, ils ne sont plus jamais seuls. Que tu es avec eux jusqu'au dernier temps, jusqu'à la fin, Seigneur. C'est-à-dire jusqu'à toujours. Seigneur, merci pour ces deux. Touche-les et bénis-les ce matin. Merci de ce temps que nous avons eu ensemble. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons en esprit et en vérité. Ne permets pas, Seigneur, la tiédeur parmi nous. Amen. Amen. Voilà, je rappelle donc, réunion de prière mardi soir. Mercredi, étude biblique. Nous sommes aussi dans un passage très important de la lettre aux Philippiens. On pourrait dire, le titre, ça serait « Changer de disquette ». On va voir comment on peut changer de disquette avec le Seigneur. Et n'oubliez surtout pas pour la semaine prochaine de prévoir un temps où vous irez à la formation de Louise Palau. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous donne une bonne journée, dans la joie, dans la paix. Amen.